Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micon et vous écoutez Impact Positif. Une seule promesse pour ce podcast, partager le parcours de personnes inspirantes. Qu'ils soient entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ont un impact sur la société, sur l'environnement, ils agissent, ils font, ils ont des solutions, les voici.
La mesure de notre succès, de notre impact qu'on compte au quotidien, c'est le nombre de repas sauvés. Et pour moi, c'est très important de parler du nombre de repas qu'on sauve plutôt que du chiffre d'affaires, du bénéfice, de toutes ces mesures finalement qui pour moi qualifient plutôt les entreprises de l'ancien monde. Alors que quand on crée une entreprise aujourd'hui, on a vraiment envie d'avoir un impact positif. Et donc la façon dont on mesure son succès au quotidien est très importante aussi et elle doit être alignée avec la cause qu'on défend. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de créer une nouvelle génération d'entreprises qui vise un impact positif sur la société et qui a un modèle économique pour permettre de faire grandir cet impact le plus vite possible.
Lucie Bache n'a pas encore 30 ans et elle part déjà à la conquête du monde avec son application Too Good To Go. Surtout aux États-Unis où le gaspillage alimentaire est un véritable fléau. Son objectif ultime, créer un mouvement mondial contre le gaspillage alimentaire. Elle est ce qu'on appelle une entrepreneure à mission. Elle a cru dur comme fer à son idée dès le début. On pourrait croire qu'elle ne doute jamais. Non, elle préfère parler de questionnement. Mais attention, pas question de rester bloquée. Impact Positif est dans sa troisième saison. Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début et aux autres qui nous rejoignent. Pour me soutenir et continuer à découvrir ces personnalités et leurs projets Impact, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, parlez-en, notez-le, cela m'aide à faire grandir ce média. Impact Positif, saison 3, épisode 7, un diamant.
Lucie Bache, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à Impact Positif. Vous êtes ingénieure de formation, fondatrice de Too Good To Go. C'est une application qui met ses utilisateurs en liaison avec des commerçants de bouche afin de leur vendre au rabais en fin de journée des produits qui n'ont pas trouvé preneur. Votre objectif ultime, eh bien, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire et contre le réchauffement climatique par ce biais. On sait qu'un tiers de la production mondiale est jetée. Et votre mission est plus que réussie. En 4 ans d'existence, vous avez pu sauver de la poubelle quelques 20 millions de paniers en France. 8 millions de Français ont téléchargé votre application. Vous êtes régulièrement cité dans des palmarès, Forbes, Challenge et plus récemment un top 50 des entrepreneurs à impact. On va revenir sur votre parcours, sur l'actualité de Too Good To Go avec une levée de fonds récente que vous allez nous commenter. Les perspectives qui sont nombreuses, mais avant tout, quel a été le déclic pour lancer l'application ? Alors pas seulement le fait qu'il y ait du gaspillage alimentaire, hein, ça tout le monde le constate. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre travail à l'époque qui vous a décidé à vous lancer ?
Oui, tout à fait. Alors moi j'ai eu le plaisir de commencer ma carrière dans l'industrie agroalimentaire. J'étais dans les usines de production, sur la chaîne, et je produisais à la fois des barres chocolatées, des bouteilles d'eau en plastique, des céréales. Et c'est là que j'ai réalisé l'ampleur du gaspillage alimentaire. J'avais toujours été témoin de ça dans mon quotidien, sur des petites choses, sur le fait qu'on jetait un yaourt dès qu'il arrivait à la date d'expiration, qu'on jetait une banane si elle avait trop de taches noires sur la peau. Et donc là-dessus, j'avais toujours été assez critique de mes proches. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, en travaillant dans l'industrie agroalimentaire, que c'était finalement généralisé et que c'était un problème énorme. Et là, je me suis intéressée davantage aux chiffres. J'ai réalisé qu'aujourd'hui, effectivement, on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Et je suis juste complètement tombée des nues et je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour faire changer les choses.
Alors, vous venez de le dire, ce n'était pas votre première expérience professionnelle. Vous avez travaillé avant dans un grand groupe agroalimentaire. Le sens, il a pris une place prépondérante pour la jeunesse. On le dit ici à longueur de podcast. Est-ce que vous dites que vous êtes issu aussi de ça, de cette nouvelle génération qui va à tout prix trouver un sens à son boulot et pas seulement dans sa grille de salaire?
Oui, je pense qu'effectivement, on passe tellement de temps au travail qu'on se dit qu'on a envie de faire quelque chose qui compte pour nous et qui a du sens. Aujourd'hui, on a la chance de demander plus que d'échanger des heures contre de l'argent et un salaire. Et finalement, on a envie de se réveiller le matin pour travailler à un projet qui nous tient à cœur. En plus de ça, ce projet peut être rémunérateur, là, on a tout gagné. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ma génération, elle demande plus qu'un salaire dans son boulot. Et c'est pour ça que moi, très rapidement, j'ai décidé de faire le grand saut et de me lancer dans une aventure qui est la mienne, finalement. Mmh.
Alors, l'idée centrale de Too Good To Go, c'est d'aller chercher soi-même son panier. On ne se fait pas livrer. C'est vrai que c'était un pari et ça a fonctionné. Vous y avez toujours cru, vous-même, alors qu'autour de vous, les gens n'étaient pas si chauds que vous, on va dire.
Oui, c'est vrai qu'au début, bien sûr, les premières personnes à convaincre, c'est les plus difficiles. Et je pense qu'il faut y croire dur comme fer soi-même et il faut savoir pourquoi on le fait. Moi, je savais que J'avais vu l'ampleur du gaspillage alimentaire et donc j'étais persuadée qu'il fallait qu'on agisse tous contre. Et c'est vrai qu'avec Too Good To Go, finalement, c'est des petites actions à l'échelle individuelle qui, finalement, mises bout à bout, permettent d'avoir un impact d'ampleur. Et effectivement, pour moi, c'était essentiel et c'était surtout très naturel. Et je pense que le Too Good To Go, c'est vraiment faire quelque chose qui a du sens. Et en fait, on est tous tellement heureux quand on fait quelque chose qui a du sens. Et donc, quand on va chercher un panier sur Too Good To Go, bah, finalement, on sait que ce qu'on fait, c'est positif et que ça a un impact contre le gaspillage. Mais aussi, c'est gagnant-gagnant puisqu'on récupère de super produits à tout petit prix, finalement. Mmh.
Alors, au départ, vous aviez créé des paniers surprises avec des commerçants. Car pour eux, c'était compliqué de référencer leurs produits. Vous avez même dit qu'il fallait trouver quelque chose d'aussi simple que de jeter à la poubelle. Alors, tout est dit dans cette phrase. C'est simple de jeter à la poubelle, finalement, et c'est contre ça que vous vous battez aujourd'hui. C'est un réflexe qui est aujourd'hui encore trop courant, trop facile, trop commun.
Alors, c'est vrai que les premiers commerçants à qui j'ai parlé, ils m'ont dit « Mais vous savez, c'est partie de mon métier de jeter. Ça fait 20 ans que je fais des produits frais. Forcément, à la fin de la journée, il nous en reste. » Et donc, ils partent à la poubelle. Les associations ne se déplacent pas parce que c'est des trop petits volumes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les associations, elles vont se concentrer sur les grandes surfaces alimentaires où c'est facile d'aller récupérer les produits.
Et puis, de toute façon, la loi les y oblige aujourd'hui.
Et la loi oblige les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés, en effet. Donc, c'est vrai que pour tous les petits commerçants de quartier, c'était compliqué. Il a fallu les convaincre que non, il y avait une solution. Et c'est pour ça, effectivement, la force du concept, c'est ce panier surprise où finalement, au moment de la fermeture, au lieu de tout jeter dans un grand sac poubelle, bah, ils vont répartir leurs invendus dans 4-5 paniers surprise. Et il y a 4-5 utilisateurs de Too Good To Go qui vont passer, à l'heure déterminée par le commerçant, récupérer ces produits. Mmh.
Alors Lucie Bache, vous n'étiez pas la première sur ce créneau. Il y avait d'autres applications qui se sont lancées quelques années avant vous. Je parle d'Optimium, mais il y avait aussi d'autres initiatives qui sont nées d'ailleurs localement. En quoi vous différenciez, vous, Too Good To Go ?
Alors avant tout, nous on pense que notre plus gros concurrent c'est la poubelle. C'est-à-dire que en fait, du gaspillage alimentaire aujourd'hui, il y en a malheureusement pour tout le monde. C'est-à-dire que plus il y a de solutions qui se lancent, plus finalement on fait naître un écosystème qui va nous permettre de mettre fin au problème. Aujourd'hui chez Too Good To Go, on prétend absolument pas être la seule solution au gaspillage alimentaire. Par contre, on veut être une solution simple qui permette à tous vraiment de s'engager. Je pense que la grosse différenciation de Too Good To Go, c'est vraiment ce concept de simplicité, à la fois du côté commerçant avec ce panier surprise et du côté utilisateur avec un concept qu'on peut tous se pitcher les uns les autres parce que c'est très simple. Et également des valeurs passionnées, à la fois de l'équipe, mais aussi de nos communautés de commerçants et de consommateurs qui savent pourquoi est-ce qu'ils s'engagent avec Too Good To Go avec une vraie volonté de réduire le gaspillage et d'avoir un impact positif sur la planète. Mmh.
Alors, quelques chiffres pour Too Good To Go. Vous êtes présent dans 15 pays, vous comptez 31 millions d'utilisateurs, vous avez 60 000 commerçants partenaires, vous employez 750 personnes et vous allez bientôt en recruter 400 autres. Est-ce que vous avez imaginé, en arriver là, quand vous vous êtes lancé il y a 4 ans, je crois que vous avez à peine 30 ans, plus ou moins, on va dire, 30, 31, 29, voilà, c'est la barre des 30.
Alors non, pas du tout. Clairement, moi, quand je me suis lancée dans le projet Too Good To Go, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi dans mon quotidien. J'avais pas la prétention de pouvoir un jour créer des emplois. J'imaginais à peine pouvoir me rémunérer avec. Je me suis vraiment dit, en quittant mon précédent employeur, que j'avais envie enfin de me donner du temps à moi pour faire quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, plutôt que de suivre ce parcours un peu tout tracé que la société semble nous imposer si on veut être reconnu. Et donc je me suis dit, je vais me donner un an et on verra ce qu'il en est. Et finalement, effectivement, l'aventure Too Good To Go, elle s'est développée très très rapidement. Très vite, les journalistes nous ont soutenus. Ils ont apprécié cette idée de, à la fois on fait du bien pour la planète et puis ça montre aussi que tout le monde sort gagnant de la réduction du gaspillage alimentaire, puisqu'en réduisant le gaspillage alimentaire, on crée de la valeur qu'on peut répartir entre les différents acteurs. Et puis, beaucoup de gens tout aussi passionnés que moi qui m'ont rejoint dès les débuts, qui ont accepté de commencer en tant que bénévole, puis qui sont passés sur des statuts trop précaires au début et qui, finalement, sont devenus les premiers employés de la boîte. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de 750 Waste Warriors qui se lèvent tous les matins en sachant pourquoi ils se lèvent et qui peuvent être rémunérés pleinement avec l'application.
Mmh. Waste Warriors, un autre nom pour collaborateur, hein, à peu près.
Exactement, mais ça a toute son importance, les mots qu'on utilise, je pense, dans le développement d'un projet entrepreneurial. Typiquement, la mesure de notre succès succès de notre impact qu'on compte au quotidien, c'est le nombre de repas sauvés. Et pour moi, c'est très important de parler du nombre de repas qu'on sauve plutôt que du chiffre d'affaires, du bénéfice, de toutes ces mesures finalement qui pour moi qualifient plutôt les entreprises de l'ancien monde. Alors que quand on crée une entreprise aujourd'hui, on a vraiment envie d'avoir un impact positif. Et donc la façon dont on mesure son succès au quotidien est très importante aussi et elle doit être alignée avec la cause qu'on défend.
Et il faut que ça marche aussi parce que sinon vos waste warriors, ils ne peuvent pas rester chez vous.
Tout à fait. Et pour moi, c'est là que c'est essentiel d'avoir un vrai modèle économique dès le début et de montrer que on n'est plus dans cet ancien monde où les associations font le bien et les entreprises font le mal et veulent juste faire un maximum d'argent.
Ça fait quelques années que ça commence à changer.
C'est ça. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de créer une nouvelle génération d'entreprises qui vise un impact positif sur la société et qui a un modèle économique pour permettre de faire grandir cet impact le plus vite possible. Et moi, aujourd'hui, j'en suis persuadée, c'est la façon la plus efficace, finalement, de maximiser notre impact, c'est d'avoir ce modèle économique qui nous permet de créer de bons emplois et de continuer à se développer dans le monde entier. Aujourd'hui, on est dans 15 pays. Et ça montre qu'on a une ambition de créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage.
Alors, vous pourriez vous arrêter là, mais c'est pas le cas, hein, parce que vous êtes aussi certifié B Corp. C'est votre choix, vous pourriez ne pas le faire sans un label qui mesure l'impact social et environnemental. C'est important pour vous, ça aussi ?
Très important, parce que moi, j'ai toujours à cœur... mon gros challenge au quotidien, c'est comment est-ce qu'on continue à se développer à toute allure, puisqu'il y a une vraie problématique et on a une super solution. On a l'urgence de la développer, tout en restant fidèle à notre ADN et à nos valeurs. Et pour ça, en fait, finalement, cet ADN et ses valeurs, ils vont tout le temps être remis en question par l'arrivée de nouvelles personnes, par le développement dans de plus en plus de pays, par l'accélération, par de plus en plus de partenaires aussi. Et donc, c'est hyper important que dans nos statuts, de manière administrative aussi, on inclut ce qu'on a envie de faire au plus profond de Too Good To Go. Et c'est vrai que la certification B Corp, ça nous pose des questions que potentiellement on se poserait plutôt dans 6 mois ou dans 1 an, quand la boîte serait encore plus développée, et qu'on a besoin de se poser dès maintenant pour s'assurer qu'on est proactif et non pas réactif sur tous ces sujets de gouvernance, de la façon dont on gère nos employés, dont on gère nos fournisseurs. Et donc c'est vrai que finalement, le B Corp, c'est un framework qui nous permet de nous poser les bonnes questions au bon moment.
Et d'ailleurs, ça a recommencé régulièrement en B Corp. C'est pas acquis à vie, hein. C'est quoi?
Exactement. En fait, tous les ans, on doit réévaluer notre score sur les 5 leviers que je mentionnais tout à l'heure et on doit systématiquement s'améliorer.
Alors, vous n'êtes pas simplement à la tête d'une entreprise, on le disait, vous êtes engagé, vous avez notamment lancé une campagne nationale de sensibilisation sur les dates de consommation. Hein. Il faut savoir que ces dates, elles sont responsables de 20% du gaspillage, parce qu'on jette, parce qu'on pense que c'est pas bon, et en fait, pas du tout. Vous avez initié un pacte sur ces dates, signé par 54 acteurs, vous vous engagez également dans l'éducation. Et quelle expérience vous en tirez, justement, de toutes ces activités annexes, hein, qui doivent vous prendre beaucoup de temps, quand même, aussi?
Alors, justement, toutes ces activités, nous, on les appelle l'impact indirect de Too Good To Go. En fait, l'application, c'est notre impact direct qui nous permet de sauver plus de 150 000 paniers de la poubelle chaque jour aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un impact qu'on peut quantifier et qui est lié directement à notre modèle économique. Mais derrière, on a aussi envie de se dire, finalement, ces 150 000 paniers, par rapport à l'ampleur du gaspillage, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, il faut aller plus loin, il faut changer les mentalités de toute la société pour avoir un impact dans la lutte contre le gaspillage. Et donc, c'est là qu'on a rajouté ces 4 piliers d'impact direct, qui sont comment est-ce qu'on emmène les foyers, qui sont responsables aujourd'hui de 30% du gaspillage alimentaire, les entreprises de l'alimentaire pour aller plus loin que de faire les paniers sur Too Good To Go, et également la politique et l'éducation pour vraiment emmener toute la société dans un changement majeur d'habitude pour vraiment avoir un impact. Et donc là-dessus, nous, c'est des activités qui sont essentielles à notre cause et à faire parler du gaspillage alimentaire, et qui vont finalement nous permettre de continuer à d'utiliser la crédibilité qu'on développe avec l'application, mais également de renforcer cette crédibilité. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui, plus on fait d'action, plus on va parler de Too Good To Go, plus l'application va pouvoir continuer à se développer, et donc on va pouvoir continuer à faire grandir l'entreprise et le mouvement conjointement.
Alors, vous êtes au comité de transition alimentaire de Carrefour. Où en sont justement les grands distributeurs dans cette lente transition alimentaire? Ils sont de plus en plus chahutés, hein, notamment par Yuka, qui est aussi une autre des applications sur ce créneau-là, mais aussi surtout par leurs propres consommateurs. Quand arrêtera-t-on, par exemple, de vendre des fraises en hiver?
Alors, ça commence, effectivement. Bah, d'ailleurs, Carrefour vient de proclamer le mois de janvier sans fraises. Donc, vous ne pouvez pas trouver de fraises en janvier dans les magasins Carrefour. Donc ça commence, c'est sûr que c'est toujours trop lent en termes de l'ampleur des problématiques auxquelles on fait tous face. Mais je dirais que un point positif, c'est que déjà, ils l'ont tous à leur agenda. C'est-à-dire que la transition alimentaire, ça fait partie de plus en plus des objectifs des comités exécutifs directement, des différents distributeurs et fabricants alimentaires. Donc ça, c'est essentiel. Et après, c'est sûr que c'est très compliqué. Et donc, pour moi, ils ont besoin de s'appuyer sur des acteurs du terrain, comme nous, comme Yuka, pour vraiment les aider et les guider à aller à la vitesse nécessaire à la fois pour la planète, mais aussi demandée par leurs clients. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous en attente de gros changements de ces géants de l'alimentation. Et du coup, ils n'ont pas le choix et ça devient une priorité stratégique. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant et moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les changements à venir ces prochaines années.
Mmh. Alors, on va en venir à présent à cette levée de fonds. Vous avez réussi à récolter plus de 25 millions d'euros, notamment grâce à Bliss. Hein. C'est le fonds d'Alexandre Mars que l'on a reçu plusieurs fois dans ce podcast. Hein. Lui, un entrepreneur à mission avec Epic, pourfendeur du don partout autour de la planète. Il a été un allié pour vous, en quelque sorte.
Alexandre Mars et moi, effectivement, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et on a tout de suite été très inspirés l'un par l'autre, je dirais, en tout cas moi par lui beaucoup, sur effectivement comment est-ce que on utilise l'argent aux fins d'un monde plus positif, plutôt que le contraire finalement, ou plutôt que l'argent juste pour l'argent. Et donc ça a été très intéressant, et effectivement. Nous, on est approchés tous les jours, toutes les semaines par des fonds d'investissement qui sont intéressés par les résultats de Too Good To Go. Et finalement, on a toujours refusé parce que dans nos discussions avec eux, on se rendait compte qu'on parlait finalement pas la même langue, que sur des enjeux financiers, oui, ils étaient très calés, mais sur des enjeux d'impact, de comment est-ce qu'on conserve l'ADN, comment est-ce qu'on développe une entreprise à mission, là-dessus, ils n'étaient pas du tout même intéressés par le sujet. Ça a été complètement différent dans les discussions qu'on a eues avec Bliss, qui nous ont challengé dès les premiers jours sur des problématiques de Bicorp. Aujourd'hui, Bliss, c'est le premier fonds labellisé Bicorp en Europe. Donc ça montre vraiment leur ambition de faire changer les choses sur la façon dont on investit dans des entreprises à mission aujourd'hui. Et puis, de la même manière, sur la gouvernance, dans la façon dont on gère nos employés, on a enfin ressenti la possibilité d'avoir un partenaire financier qui serait aussi un vrai partenaire de croissance pour rester fidèle à ce qu'on voulait faire chez Too Good To Go. Et c'est là que, du coup, on a été séduits, et puis ça s'est fait très rapidement, finalement.
Mmh. Alors, Alexandre Mars, il a une question pour vous. Je vous la fais écouter.
Lucie, moi qui ai appris à te connaître au fil des mois, je ne te vois jamais douter. Est-ce que c'est une image que tu donnes ou est-ce que tu ne doutes à réellement jamais?
C'est une bonne question. Non, je pense que j'ai pas de doute sur le fait qu'il faut continuer à avancer. Donc mes questions, c'est dans quelle direction, comment est-ce qu'on est le plus efficace possible en termes de notre impact. Mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai cette croyance au fond de moi qu'il faut toujours avancer. Et que c'est en faisant le chemin qu'on apprend, qu'on corrige. Et donc moi, je laisse beaucoup de place à l'erreur chez Too Good To Go et aussi chez moi. Et c'est important pour moi de se dire, en fait, on avance et ensuite, systématiquement, on va comprendre est-ce qu'on est avancé dans la bonne direction, est-ce qu'il faut rediriger, est-ce qu'il faut réinventer. Mais ne jamais rester bloqué, parce que je pense que ça apporte pas de bien et qu'aujourd'hui, il y a une telle urgence qu'il faut continuer à avancer. Donc finalement, plutôt que des doutes, c'est plutôt des questionnements qui, je pense, sont importants, mais qui ne nous bloquent pas. Mmh. Et ça, c'est un peu ma façon de fonctionner. Mmh.
Alors, objectif évidemment avec cette levée de fonds, c'est vous développer, hein, notamment aux États-Unis. Vous êtes déjà présent à New York, Boston, vous visez d'autres villes, San Francisco, Los Angeles, Philadelphie, Washington. C'est quoi? C'est un rêve américain ou c'est encore votre mission qui vous pousse à aller vraiment jusqu'au bout et notamment lutter contre le réchauffement climatique, hein? On sait que vous soutenez l'objectif de l'ONU, une réduction de 50% du gaspillage alimentaire dans le monde d'ici 2030. On imagine que c'est un peu des deux.
Alors, pour moi, l'ambition de Too Good To Go, c'est de créer un mouvement mondial de lutte contre le gaspillage. Donc, c'est vrai qu'on a commencé par l'Europe. On se sent, bien entendu, plus proche des Anglais, des Italiens, des Allemands que de l'autre côté du monde. Après, quand on regarde où est-ce qu'on va après l'Europe, Forcément, les États-Unis, ça arrive très vite en haut de la priorité, de la liste de priorités. Aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit aux États-Unis.
C'est beaucoup plus.
C'est hallucinant. Ils sont vraiment leaders mondiaux là-dessus aussi. Et puis surtout, je pense que les États-Unis ont été très ébranlés ces dernières années et qu'ils ont besoin de solutions positives qui leur montrent que eux peuvent s'engager pour la planète également. Donc là, c'était une année importante pour les États-Unis et je pense que l'arrivée de Too Good To Go est très bienvenue. Parce que c'est ces petites solutions concrètes qui permettent à chacun de faire la différence dans son quotidien, qui montrent qu'il y a de l'espoir et qui montrent qu'on peut faire changer les choses finalement très rapidement. Mmh. Donc je pense que les États-Unis c'était une évidence pour nous depuis longtemps. Et en 2020, on a choisi de faire le grand saut. Et pour l'instant, c'est bien au-delà de ce qu'on avait pu espérer, notamment pendant une pandémie mondiale. Donc on est très heureux de ce lancement. Et effectivement, ça nous donne toute la confiance nécessaire pour accélérer sur ces prochains mois et convaincre un maximum d'Américains de s'engager contre le gaspillage.
Parce que là-bas, vous avez des concurrents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la même idée que vous ?
Eh ben non, finalement, aussi peu qu'en Europe, je dirais. Donc, il y a quelques acteurs, et ça, on est plutôt contents. Et nous, notamment, quand on arrive dans un nouveau marché, ben, on les contacte, on voit quels ont été les obstacles, est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. Aujourd'hui, finalement, il y a très peu d'acteurs. Il y en a quelques-uns locaux qui opèrent sur un ou deux États. Mais finalement, c'est quand même à des proportions bien différentes de celles de Too Good To Go. Aujourd'hui, on a plus de 60 000 commerçants. Le deuxième plus gros acteur, il a moins de 1000 commerçants. Et donc finalement, c'est vraiment à des échelles complètement différentes qui nous donnent la responsabilité de continuer à se développer à toute allure. Mmh.
D'ailleurs, c'est pas très facile de se lancer dans cette période de pandémie. Vous n'êtes pas dit non, on va attendre un petit peu
Alors, on a attendu un petit peu puisque la date d'origine de lancement des États-Unis, c'était le 18 mars 2020. Donc autant vous dire que c'était potentiellement la pire date qu'on avait pu choisir. Donc on a décidé de reculer. On a décidé de reculer un peu. On a lancé le 29 septembre 2020 à New York et à Boston. Pour moi, en fait, j'ai pris. Bon, bien sûr, on a tous été choqués par cette crise et par la rapidité à laquelle elle est arrivée. Et puis rapidement, on s'est dit, en fait, on ne sait pas pour combien de temps on est dedans. Potentiellement, le monde va changer aussi sur le long terme. Beaucoup de gens parlent de plus de pandémies qui vont arriver, etc. Et finalement, le gaspillage alimentaire, lui, il ne s'est pas arrêté. Et donc, on s'est dit, c'est juste une contrainte supplémentaire dans le monde avec laquelle il va falloir jouer. Et donc, finalement, on a décidé de repousser de quelques temps, mais de quand même continuer à y aller. Et puis, on a bien fait, puisque finalement, le lancement à New York et Boston a été bien plus rapide que tous les pays qu'on avait pu lancer en amont en Europe. Aujourd'hui, on a déjà une soixantaine de personnes sur place qui travaillent à développer l'application là-bas. Mm-hmm. Et donc, finalement, on a très bon espoir de pouvoir continuer à vraiment avancer au maximum sur ces prochains mois, malgré la pandémie. Mm.
Alors, Lucie Bache, vous êtes également dans le top 50 des entreprises à impact. C'est un classement qui est réalisé par Care News, avec Hatch, avec l'ESSEC, avec BNP Paribas, et qui tente de dresser par catégorie les entreprises qui ont eu le plus d'impact positif. Vous êtes donc dans ce classement. Je crois que vous êtes cinquième dans la catégorie consommation responsable. Et qu'est-ce que cela vous apporte finalement de figurer dans ces classements ? Alors ça, c'est un beau classement, puisque c'est le classement des entrepreneurs à impact. Il y en a aussi, il y en a eu d'autres, je le disais en introduction. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Je pense que avant tout, c'est beaucoup de fierté pour moi. Mais
votre démarche est validée. Elle est reconnue, elle est validée,
c'est
elle
simple,
est comprise.
Ça montre que ce qu'on fait inspire d'autres et a de l'impact. Donc ça, pour moi, tous ces prix, ce qui est très important, c'est effectivement de les redonner à l'équipe et de les partager avec eux. Souvent, on met beaucoup de focus sur l'entrepreneur. Et finalement, un entrepreneur seul, il est rien. Derrière, il y a des équipes qui bossent au quotidien et qui sont tout aussi passionnées et tout aussi inspirantes que nous. Mais c'est vrai que ça nous permet aussi de continuer à communiquer sur le fait qu'aujourd'hui, c'est possible de créer une entreprise à impact. Et donc, l'idée, c'est d'inspirer les futurs entrepreneurs et de se dire, aujourd'hui, quand on entreprend, il faut se poser la question de quel va être mon impact sur la société et vraiment de créer de plus en plus d'entreprises qui viennent apporter des solutions plutôt que de créer tout un tas de produits qui, finalement, n'apportent pas forcément un impact positif sur la société. Mmh.
Alors, je termine toujours ce podcast avec une interview dont l'interview, c'est l'interview des clics. C'est parti. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer, surtout dans cette période si particulière de crise sanitaire et environnementale ?
Je pense de ne pas hésiter. On parlait du doute tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas en avoir. Il faut se dire qu'on n'a rien à perdre, qu'on a intérêt à se lancer et que, au mieux, ça fonctionne et on est hyper content et on lance un projet qui a du sens pour nous. Au pire, ça fonctionne pas, et dans ce cas-là, on apprend énormément, et on commence à parler de plus en plus du CV des échecs, et de à quel point l'échec, finalement, nous permet d'apprendre énormément. Donc moi, c'est ce que je recommande à tout le monde, juste allez-y, et apprenez en chemin, en fait.
Alors justement, je vous parlais d'échecs, c'est quoi votre plus bel échec?
C'est une bonne question. J'ai du mal en fait à appeler un quelconque moment un échec, parce que je dirais que c'est vraiment des apprentissages. Et en fait, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. À chaque fois que je me heurte à un mur, je me dis « Ah, intéressant, en fait, il y a un mur ici, je ne l'avais pas vu. Comment est-ce que je peux le contourner? Comment est-ce que je peux ne pas le rencontrer la prochaine fois ?» Et donc finalement, c'est vrai que j'ai du mal à avoir des souvenirs négatifs de toute cette aventure. Je pense que peut-être mon
plus... C'est exceptionnel, parce que quand même, en 4 ans, la chance quand même
mais
d'avoir...
Mais c'est parce que je pense que ça dépend de comment on les voit, en fait. Et
d'accord,
je vous, sûrement,
très optimiste.
J'aurais une autre mentalité, je pourrais peut-être lister un nombre d'échecs incroyables. Mais finalement, je pense que mon plus gros échec, c'est peut-être d'avoir attendu pour me poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, moi, Lucie, et comment est-ce que j'ai envie de contribuer à cette société. Je pense que pendant trop longtemps... J'ai fait ce qu'on attendait de moi plutôt que ce que j'avais vraiment envie de faire.
Pas trop longtemps, on précise que vous avez quand même moins de 30 ans.
mais c'est quand même 30 années. Mais c'est vrai que j'avais 22 ans quand je me suis dit pour la première fois, je me posais la question de ce que j'ai vraiment envie de faire.
Ouais.
Et en fait, je considère que c'est une question qu'on devrait se poser à 10 ans, en fait. Et pour moi, c'est une erreur.
Vous allez stresser encore plus les enfants, là, qui sont
déjà... Non, parce que c'est une bonne question à se poser. En fait, c'est une question qui évolue aussi tout au long de sa vie. Mais je pense que c'est une erreur que l'école ne nous apprenne pas à nous la poser davantage et plus tôt.
Comment on peut être utile? Comment on peut reporter ça à sa pierre, c'est ça?
Oui, mais comment est-ce qu'on peut être en ligne avec ce qu'on a vraiment envie de faire? Et en fait,
c'est difficile. Par exemple, un enfant, il faut qu'il grandisse pour le savoir aussi.
Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est une question qui évolue au fur et à mesure. Mais en fait, pour moi, l'utilité, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, on en revient au sens de la vie pour des questions plus philosophiques. Mais c'est comment est-ce qu'on a envie d'évoluer et qu'est-ce qui nous tient à cœur à nous. Et ensuite, comment est-ce qu'on s'inscrit dans un écosystème, toujours. Mais pour moi, il y a cette question d'être utile ou de faire ce qu'on doit faire. Finalement, il faut toujours la rechallenger et vraiment se construire vis-à-vis de nous-mêmes plutôt que vis-à-vis de l'environnement extérieur.
Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir?
Je suis un peu biaisée parce que je lis le livre de Barack Obama en ce moment, que je trouve quand même... que je trouve quand même un livre très inspirant et une personne qui a quand même inspiré énormément de monde sur Terre. Donc je pense qu'effectivement, une petite discussion avec Barack, ça ne se refuse pas. Ça pourrait être un très beau moment à partager.
Ouais. Vous ne seriez jamais devenue ce que vous êtes si...
Je pense sans mes proches. J'ai une famille et des proches qui m'ont vraiment toujours soutenue pour qui j'étais plus que pour ce que je faisais. Et donc ça, je pense que c'est un cadeau qui est très très précieux et pour lequel je sais que j'ai eu beaucoup de chance sur mon environnement depuis toute petite et encore aujourd'hui.
Une qualité essentielle pour entreprendre aujourd'hui?
Je pense oser.
Ouais.
Et vraiment. Éviter toutes les questions et essayer de toujours chercher les réponses, finalement.
C'est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière aussi?
Oui, je pense. De moins avoir de doutes, justement, et de plus se lancer dans l'aventure dès qu'elle apparaît.
Alors, je vous vois regarder tout le temps votre portable. Le temps est un bien précieux. Quand vous en avez un peu, qu'est-ce que vous faites? Vous décrochez?
Non, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à décrocher, même si j'essaye. Non, je fais quand même pas mal de yoga qui m'aide à décrocher, mais sinon non, tout mon temps hors Too Good To Go, c'est de passer du temps avec mes proches, mes amis, de faire un peu de sport. Je fais beaucoup de volets aussi et donc c'est trouver cet équilibre, mais c'est vrai que bien sûr une aventure entrepreneuriale c'est très prenant et finalement c'est très riche aussi, donc on a quand même l'impression d'avoir une vie équilibrée même si ça prend énormément de temps et d'énergie.
Que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment?
Je vais me répéter, mais il ne faut pas hésiter, il faut se lancer, il faut se nourrir des autres aussi, et y aller toujours. Moi, j'ai tendance à toujours me dire, au pire, qu'est-ce que je risque? Et si ce n'est pas dramatique, j'y vais. Et après, on voit ce qui se passe.
Ok, bah écoutez, le message est passé. Merci beaucoup, Lucie Bache.
Merci
en tout cas, bonne chance vraiment pour votre conquête de tous ces pays, votre conquête notamment de l'Amérique aussi. On retrouve votre actualité sur Too Good To Go, sur les réseaux, sur le site.
Tout à fait, on est très présents sur les réseaux sociaux. On a un blog aussi. Et vous pouvez d'abord commencer par télécharger l'application si ce n'est pas fait. Et puis ensuite, vous rendre sur le site internet pour énormément de conseils sur l'anti-gaspi et sur comment on peut faire changer les choses à son échelle.
Oh, vous avez publié un livre d'ailleurs. Hein,
pour exactement, le guide anti-gaspi. Ouais.
Voilà. Mais merci beaucoup, Lucie
merci
Bache.
À
bientôt.
À bientôt.
Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci à David Führer pour la coordination. Merci à Mickaël Cailly pour le mixage. Si l'épisode vous a plu, partagez-le, parlez-en autour de vous, notez-le sur vos plateformes. Impact Positif est présent sur Twitter, sur lci.fr, sur Instagram. Vous pouvez me proposer des idées sur ces réseaux. Je parlais du top 50 des entrepreneurs à impact tout à l'heure. Vous pouvez le retrouver sur carenews.com. Vous y découvrirez d'autres solutions validées dans leur impact, réplicables, portées par de nombreux entrepreneurs à mission. Enfin, Lucie s'est spécialisée dans le gaspillage alimentaire. Il y a tellement d'autres femmes expertes à découvrir et on les entend si peu. Les mettre en lumière, c'est justement l'objectif d'Experte à la Une, le podcast de Christelle Chéroux que je vous invite aussi à écouter. Quant à nous, on se retrouve vite pour un nouvel épisode d'Impact Positif.